Alors aujourd'hui, en tout cas, je vais aborder la question de l'autorité, la notion d'autorité, l'exercice dans l'Église, dans la famille aussi, et hors de l'Église. Donc ce mot de l'autorité, des fois, ça peut faire dresser les cheveux. C'est un mot qui n'a pas bonne presse. De quel droit dois-je me soumettre à une autorité? Et quand j'ai une autorité, de quel droit ces petits-là y remettent mon autorité en question? Et je crois que c'est un problème qui questionne, en tout cas les hommes se bataillent avec depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont cru au mensonge de Satan, qui leur a dit, mais consommez de ce fruit, et vous verrez, vous serez comme Dieu, capable de discerner le bien du mal. Seulement, l'homme n'a pas cette capacité, l'homme seul n'a pas cette capacité de discerner le bien du mal, et son rapport à l'autorité est plus ou moins compliqué selon les personnes. Et aujourd'hui, en France, nous sommes dans une société où le libre arbitre, le développement personnel, est quelque chose de très fortement mis en avant. De quel droit tu vas contraindre, tu vas limiter ta liberté parce qu'un type t'a dit que tu devais pas faire ci, pas faire ça. Et du coup, nous naissons dans cette société, nous sommes environnés par ces discours. Et nous, en tant que chrétiens, on peut aussi avoir du mal des fois avec soit l'exercice de l'autorité, soit de la gestion de l'autorité. Et on peut observer qu'aucun groupe ne peut durer longtemps s'il ne définit pas, s'il n'y a pas une autorité clairement définie. Parce que dans tout groupe, même quand on se dit on est bien ensemble, il n'y a pas de chef, il y a toujours une autorité qui se met en place. Soit qu'elle soit positive ou négative, on confère une autorité à quelqu'un, systématiquement, sans quoi le groupe à long terme ne peut pas vivre. Je pense que c'est une autonomie. Et Dieu donc a confié des autorités, différents niveaux de responsabilité qui n'ont rien à voir avec différents niveaux de valeur. Ce n'est absolument pas la pensée de Dieu. Et alors, quel rôle Dieu souhaite-t-il donner à l'autorité? Donc, dans la définition du petit Larousse, il est dit pouvoir de décider, de commander ou d'imposer sa volonté à autrui. Et étymologiquement, on voit que ce mot autorité fait référence à gouverner, prendre le gouvernail, donner une direction, diriger, conduire en ligne droite, rectiligne. Ce qu'est censé faire le roi, on dirait aujourd'hui nos dirigeants politiques, le président de la République et son gouvernement, et corriger, c'est ramener dans le droit. Diriger, c'est aussi accepter de corriger pour amener dans le droit chemin. C'est orienter, il y a cette notion d'orienter, regarder vers l'Orient, là, l'Orient c'est là, je crois. Je suis déphasé, je ne suis pas dans ma région, donc l'Orient c'est quelque part. Et donc, c'est là où se lève le soleil. Et donc, c'est important de cette notion de regarder, en tout cas, là où se lève le soleil pour orienter sa journée, pour commencer à servir. Et cette notion d'autorité est aussi liée à la question de chef. Encore un mot qu'on n'aime pas. Chef. Et le chef est censé exercer l'autorité, mais cette autorité, c'est être en capacité d'augmenter, en capacité de faire grandir dans une direction, grandir en hauteur de façon symbolique, c'est favoriser la croissance des personnes. On entend déjà mieux. Si un chef vise à favoriser la croissance de ceux qui sont sous son autorité, c'est déjà plus agréable. Après, il y a toujours les personnes qui, viscéralement, ne se soumettent à personne. Mais là, on parle de l'exercice de l'autorité. Et chacun d'entre nous, quand on exerce l'autorité, est-ce qu'on est dans cette optique-là d'aider les autres à croître un groupe, une personne? C'est donc une responsabilité importante que d'exercer l'autorité. C'est une autorité de service qui est déléguée par Dieu et non une autorité pour se faire servir. C'est important. Et quand on passe en revue un peu les différentes autorités, leurs droits et leurs devoirs, et donc en tant que créateur de l'univers, Dieu revendique son droit d'être l'autorité suprême sur Terre, l'autorité suprême sur chacun d'entre nous aussi. Dans Exode 20, verset 3, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et dans Ésaïe 45, 5, « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu ». Et je veux juste lire la prière du Notre Père en Matthieu 6. Cette autorité est clairement affirmée. Aussi Matthieu 6, versets 9 à 13. Priez donc ainsi, Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous de l'esprit du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Dans cette prière, nous reconnaissons l'autorité de Dieu sur nos vies. Et c'est important de relire cette prière régulièrement et de s'arrêter aux différents points. Seigneur, mais où, éventuellement, je ne me soumets pas à ton autorité dans tel ou tel domaine. Dieu fixe aussi son droit à rétribuer quiconque le veut. Non, quiconque comme il le veut. On voit ça dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Souvenez la parabole des vignerons. À la fin, il y a les ouvriers de la première heure qui sont pas contents du tout parce qu'eux, ils se sont tapés une journée sous le cagnard. Ils ont bossé 12 heures. Et ceux qui ont commencé qu'à 5 heures du soir, ils n'ont bossé qu'une heure, ils ont reçu la même paye. Alors, ce n'est pas un projet syndical hein, à retenir, mais c'est vraiment... Mais Dieu termine magnifiquement ce passage, Jésus termine magnifiquement ce passage en disant « N'ai-je pas le droit de donner à chacun ce dont il a besoin ?» Et un denier, c'était ce qu'avaient besoin les personnes chaque jour pour vivre. Donc Dieu donne même à ceux qui se sont tournés vers lui sur le tard. Il donne la même chose, la vie éternelle. Et je trouve c'est très fort. Et ça nous invite à l'humilité aussi, à ne pas nous comparer les uns aux autres et combien facilement on peut se jalouser. Et Dieu détient aussi l'autorité sur les méchants. Des fois, on pourrait se dire, mais ce n'est pas possible, quoi, que Dieu laisse faire, c'est pourri. Et pourtant, Dieu limite leur possibilité d'agir. On voit ça dans le Pharaon, pas à l'exemple du Pharaon, dans Exode 7, versets 1 à 14. Non, verset 1, 4, verset 14. Et Dieu donne aussi du cadre, on le voit aussi dans l'Apocalypse, dans 13, 5 et 17, 12. Et il dit même, mais j'ai aussi le droit de bénir les méchants. Je leur accorde aussi la pluie sur leur terre. Je leur accorde aussi des récoltes. Donc Dieu souhaite aussi manifester sa bonté et son autorité, même sur les méchants. Et par déduction, il y a donc une invitation de Dieu à ce que chacun d'entre nous, nous puissions nous soumettre à sa parole, vu que c'est lui qui l'a transmis aux hommes. Nous soumettre à sa parole, c'est-à-dire ne pas discuter. Non, ça j'ai pas envie de faire, ça j'ai pas envie de faire. Mais nous soumettre, et Dieu agit avec puissance. Actuellement, je suis en train d'accompagner une femme qui a vécu l'enfer depuis beaucoup d'années, depuis sa naissance, et elle avait de grandes blessures. Et lors d'une intervention dans une église, comme ça aussi, à la fin du culte, elle était fâchée après moi. Elle m'a dit, mais ça, tu peux pas dire. Tu peux pas demander de pardonner. Tu peux pas me demander ça. J'ai dit, je ne te connaissais pas. Je dis ça, mais dans la parole, il est parlé du pardon, de la nécessité de pardonner même à des personnes qui ne reconnaissent pas forcément leur tort. Et puis, on a cheminé ensemble, et récemment, elle a pu pardonner, entre autres, à son mari. C'est un des grands pardons qu'elle devait accorder. Mais elle a dit, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Donc, elle avait la conscience que c'était le chemin de la guérison pour elle. Elle a crié à Dieu pour qu'elle lui donne cette capacité de pardonner. C'était vraiment du miracle. Le pardon, c'est un miracle. On ne déplace pas les montagnes, mais c'est un miracle dans le cœur, parce qu'il y a des choses qui sont des fois tellement difficiles que je crois vraiment à ce miracle. Elle a dit, mais ce n'est pas moi qui ai pu faire ça. C'est Dieu qui a pu faire ça. Et puis elle a pu recommencer à avoir une relation amoureuse de qualité avec son mari. Et si vous avez du temps pour prier, priez pour elle, qu'elle puisse arriver à pardonner à son papa qui, depuis sa plus tendre enfance, l'a massacrée. Il y a aussi, bien sûr, des gouvernements sur Terre, des rois, des juridictions locales au niveau de la justice. Il y a les paradigmes de nos sociétés qui font des fois office de loi. Et Dieu nous invite à nous soumettre aux autorités. On voit ça dans Romains 13, versets 1 à 7. Alors, quand Paul le disait, c'était apparemment une autorité aussi qui n'était pas trop mauvaise. Alors, bien sûr, il est impératif de pouvoir se soumettre d'abord à Dieu, comme Pierre l'a dit devant le Sanhédrin. Plutôt dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais refuser systématiquement de se soumettre aux autorités, c'est refuser de se soumettre à Dieu. Refuser de se soumettre à son patron, sauf s'il nous demande de commettre des actes qui ne sont pas corrects, c'est refuser de se soumettre à Dieu. Refuser de se soumettre à un enseignant, c'est refuser de se soumettre à Dieu. Toujours dans la limite, bien sûr, où il ne nous oblige pas à faire quelque chose qui est contre lui. Et on peut voir aussi que Dieu délègue la gestion de l'autorité, mais il pose aussi un cadre. Et on voit dans Josué 1, verset 8, où il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le roi ne doit jamais, ou celui qui gouverne, ne doit jamais oublier qu'au-dessus de lui, il est invité à se soumettre à l'autorité de Dieu. Il y a deux. Et il va devoir rendre des comptes par rapport à la manière dont il aura géré l'autorité. Dans Deutéronome 17, versets 18 à 20, il est aussi dit, « Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes. Il ne dévira pas de la loi, ni dans un sens, ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur la terre, sur le trône d'Israël. » Donc c'est une invitation à ce que le roi soit humble. Et ce que je trouve très fort, ainsi il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes. Et nous pouvons aussi le prendre pour nous. Quand on détient l'autorité, est-ce qu'on a envie de s'enorgueillir? C'est moi le chef. Restez à mes pieds. Et en tout cas, le Seigneur, quand il délègue une autorité, il donne aussi le pendant, il donne aussi la responsabilité qui va avec. Donc celui qui exerce l'autorité doit pouvoir se soumettre lui-même à Dieu. Car Dieu veut garder la main. Et pourquoi cette autorité d'humilité? Jésus-Christ lui-même a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de vous tous. une autorité pour servir, une autorité pour aider les autres à grandir. Dans l'Église aussi, il y a l'autorité du pasteur, des anciens, des diacres, des responsables d'activité. Et dans Éphésiens 6, versets 11 à 16, il est dit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Les autorités dans l'Église sont invitées à travailler, à encourager les frères et sœurs dans la foi à croître dans la relation avec Dieu pour qu'ils deviennent aptes à accomplir leur ministère. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. C'est important de veiller à ce que ceux qui prennent des responsabilités d'Église aient toujours cette optique-là, cette vision-là de la croissance donnée à chacun les moyens de discerner entre le bien et le mal, afin de ne pas se laisser emporter par nos émotions, afin de ne pas se laisser emporter par des beaux parleurs, afin de ne pas se laisser emporter par des gens qui ont un art oratoire, mais qui diffusent des pensées, des paroles qui ne visent pas à la croissance, qui ne visent pas à la soumission vis-à-vis de Dieu, qui ne visent pas à développer la relation avec Dieu. Et dans l'Église, il y en a aussi. Veillons à ne pas leur laisser la place qu'ils revendiquent, parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne servent pas le peuple, ils servent à leur propre gloire. Je ferai à présent quelques recommandations, dont 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Là encore, autorité est liée avec responsabilité, être un exemple. Et nous tous, quand on voit un chef, même dans une équipe de sport, quand on voit que l'entraîneur, quand on voit que le capitaine, quand on voit que des personnes influentes dans une équipe cherchent à nous faire croître chacun et non pas à être the best pour avoir les acclamations, pour avoir le nom dans le journal, mais qu'ils cherchent à faire gagner l'équipe, on a envie de suivre ces gens-là. On a envie de suivre ces leaders quand ce sont des gens qui ne sont pas des truands, des gens qui ne nous manipulent pas, mais qui nous aide vraiment à croître en nous, en respectant notre liberté. Donc veillons aussi à discerner, demandons à Dieu ce discernement, parce que des mauvais conducteurs, il y en a aussi dans l'Église, on voit ça dans 3 Jean 1, versets 9 à 10, en parlant de Diotrephe. Et dans la famille, il y a aussi cette notion d'autorité et de soumission dont il est parlé. Donc, à Éphésiens 5, versets 21 à 23, il est parlé de la soumission de la femme. Alors, je ne vais pas développer, je vais plutôt parler de responsabilité de l'homme. Non pas que j'ai peur des œufs, pas du tout, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc oui, la soumission de la femme, alors ça aussi, des fois, dans le mouvement, enfin, par rapport au mouvement féministe, on pense que c'est une humiliation de la femme, on pense que c'est de l'esclavage de la femme. Et malheureusement, des fois, c'est vrai, les hommes ont mal exercé leur autorité. C'est vrai. Des fois, les hommes et les frères chrétiens ont été comme des salauds vis-à-vis de leurs femmes, comme des dictateurs vis-à-vis de leurs femmes. C'est vrai, il faut le dire, et je crois qu'il faut retourner à la parole pour nous inviter à réfléchir par rapport à ce qu'elle dit. Donc, Éphésiens 5, 25 à 27. « Vous, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. » Comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Quand je pose cette question dans des groupes d'hommes, mais comment Christ a accompagné son église ? Le démarrage est difficile. On lit ça des fois, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire, oui, mais comment Christ a accompagné l'Église ? C'est lui mon modèle. Mais je crois que Christ a accompagné son Église parce que lui-même, il s'est donné pour devoir d'être irréprochable. Il a accompagné son Église en acceptant aussi ses défauts. Dans la parole, il est dit à un moment... Christ, qui était exacerbé, il a dit « Mais combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Et pourtant, il a continué à s'engager, même si son Église ne répondait pas toujours à ses attentes. Il a été doux, il a accepté d'accompagner chacun dans son individualité. Oui, nous sommes une Église, mais Christ nous parle et nous accompagne chacun dans notre individualité. Là où nous en sommes, Christ intercède pour nous, auprès du Père. Christ est allé vers les humbles, vers les boiteux. Et on peut dire des fois, l'Église, c'est une bande de bras cassés. Et pourtant, Christ accompagne cette bande de bras cassés. Christ nous dit que nous sommes des personnes de valeur, des perles. Christ nous invite à nous considérer à travers ce que Dieu dit de nous et non pas à travers du regard des autres, qui ont plus tendance à relever nos défaillances et pas ce que nous réussissons bien. Ce n'est pas parce que nous faisons que nous sommes aimés par Dieu, c'est parce qu'il a fait le choix de nous aimer. Et un frère disait une fois par rapport au mariage, dans le mariage, il y a l'amour-émotion. Mais souvent, il y a l'amour volontaire. Et Christ a un amour volontaire vis-à-vis de son Église. Et le Seigneur nous invite à aimer nos épouses quand elles sont jeunes, belles, mais aussi un peu plus fripées par le temps. Les aimer, même lorsque le matin, nous avons une haleine de crocodile, tous les deux. Mais il nous aime, quoi. Il s'engage. Au verset 26, « Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. » Ça ne veut pas dire que nos femmes sont des écervelées, incapables de comprendre elles-mêmes la parole de Dieu. Cela veut dire que c'est une invitation aux hommes de prendre leur responsabilité d'être des maris spirituels, des maris qui fouillent la parole, des maris de prière, des maris qui ne se laissent pas balloter par tout courant de pensée, des hommes droits, capables de demander pardon aussi. des hommes fidèles à la parole. Ainsi, il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Faire le choix de voir son épouse comme belle dans la salle du groupe de jeunes, là-bas, il y a le verset de 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus-Christ regarde à notre cœur. Et je nous invite, nous les hommes, les maris ou futurs maris, à être des hommes spirituels qui sommes plus attachés au cœur, qui veillons à prier pour nos épouses, même si de temps en temps, elles peuvent nous agacer, à prier pour elles, à prier pour nous, afin que notre cœur puisse rester pur et que nous ne la rejetions pas. Parce que nous aussi, nous pouvons être impactés par la société de consommation. Ça ne va plus, on jette, on va à la déchetterie ou on va faire un tour en forêt et on revient avec la voiture plus légère. Donc, veillons nous-mêmes à nous engager comme le Christ veut que nous engagions. Alors, il est aussi parlé de la relation parent-enfant, Éphésiens 6, 4. « Père, n'exaspérez pas vos enfants. » Mais je dis aussi « Mère, n'exaspérez pas vos enfants. » Parce que les femmes savent aussi y faire dans la capacité d'exaspérer les enfants. Et dans l'exaspération, c'est presque du harcèlement qui vise à décourager. C'est aussi cette capacité que l'on a malheureusement à noter ce qui ne va pas, à dire « c'est pas assez bien, on peut mieux faire ». Et l'enfant, il peut se dire « mais quand je serai assez bien ? Quand est-ce que je pourrai être aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais ?» L'exaspération coupe l'herbe sous les pieds et nous empêche d'aller de l'avant. Ne soyons pas des parents exaspérants. Vraiment, même lorsque nous devons, et c'est notre devoir de reprendre nos enfants lorsqu'ils dévient, ne les exaspérons pas. Vraiment. On le voit aussi dans Colossiens 3, verset 21. Et il y a aussi une responsabilité qui est liée à ça. Vous avez reçu une autorité, mais aussi apprenez à vos enfants. Donc, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Ou dans d'autres versions, même quand il aura du poil à la barbe, il ne s'en éloignera pas. Donc, c'est aussi une invitation à leur donner cette capacité, cette connaissance de Dieu pour qu'ils développent une colonne vertébrale spirituelle, cette colonne vertébrale qui tiendra jusqu'à la fin de leur jour, même si, pendant un temps, il y a peut-être des moments de flottement et de ballottage parce qu'il y a des moments qui sont moins faciles. Mais aussi, là, dans l'exaspération, veillons à ne pas dire à nos enfants qui sont passés par le baptême, à nos enfants qui cherchent le Seigneur, veillons à ne pas leur dire, quand ils font une erreur, « Ah ben, si c'est ça, un chrétien, c'est mortel, ça. » Et nous aussi, en tant que parents, des fois, nos enfants aimeraient bien nous baffer parce qu'on peut des fois être extrêmement pénible. Et dans Proverbes 3, versets 11 à 12, il est dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors vous, enfants, jeunes, vos parents ont un devoir d'éducation. Ce n'est pas un job facile, mais ils ont ce devoir aussi de vous reprendre lorsque vous débordez, lorsque vous commencez à faire n'importe quoi, lorsque vous ne respectez pas éventuellement vos enseignants. Ils ont le devoir de vous protéger de vous-même et de protéger les autres de vous, des fois, si vous commencez à être méchant. C'est leur devoir. Acceptez qu'ils puissent assumer ce devoir. Vous avez raison de leur dire lorsqu'ils sont dans les excès, mais lorsqu'ils vous reprennent, ayez l'humilité d'accepter qu'ils vous reprennent pour votre bien. Franchement, ne passez pas à côté de là. Ne copiez pas les autres jeunes qui n'ont pas cette chance d'entendre ce que vous entendez ce matin. Parce que plus tard, ils vont le regretter. Et accepter l'autorité de ses parents, c'est une bénédiction lorsqu'elle est juste. Je dis bien, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi de parents qui sont malveillants, vraiment. Seigneur, dans 1 Timothée 6, versets 1 à 12, il parle aussi du fait de se soumettre aux autorités dans les entreprises. Donc là, il a parlé des esclaves, hein, mais on n'est plus dans ce temps-là, en France en tout cas, et de se soumettre à leur maître, on pourrait dire actuellement les employeurs, car c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement je me soumets pour me soumettre, mais en me soumettant, en ne mettant pas des bâtons dans les rayons de mon patron, c'est une manière de l'honorer et d'honorer Dieu qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a, je ne vais pas trop m'étaler, mais aussi les autorités humaines par délégation, le cadre législatif, un panneau de la circulation. On peut se dire, oh ben, je m'en fous, hein, il n'y a pas de radar, donc je m'en fous, personne ne me verra, mais Dieu vous voit. Alors on peut longtemps dire, hein, je trouve que là on pourrait rouler plus vite. Oui, mais chaque Français voudrait rouler à sa vitesse. Et chacun croit qu'il est maître de sa voiture, donc à un moment donné, il faut quand même fixer un cadre. Mais là aussi, on déshonore Dieu lorsqu'on ne respecte pas le code de la route. Ouais, on déshonore Dieu. Veillons à respecter nos autorités terrestres. Et je rappelle, la différenciation des rôles n'est pas une différence de valeur. Et chacun d'entre nous, lorsque nous détournons l'autorité, comment l'exerçons-nous ? Sommes-nous soumis à Dieu ? Sommes-nous capables de demander pardon pour nos erreurs ? Et par là même, de tordre le cou à la fausse croyance qui laisserait nous faire croire que si on demande pardon à un subalterne, si on demande pardon à ses enfants, on va perdre de l'autorité. C'est une pensée toute humaine, mais qui ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu. Un chef qui est capable de demander pardon à ses employés, très souvent, sauf il y a quelques tordus dans l'histoire, mais très souvent, il gagne de l'autorité. Et c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, alors que les orgueilleux, on n'a pas envie de les suivre. Est-ce qu'on recherche l'adhésion du groupe ? Est-ce qu'on est capable de poser un cadre aussi ? Parce que ça fait partie de l'exercice de l'autorité. Est-ce qu'on inspire confiance ? Est-ce qu'on est un leader positif ? Est-ce qu'on est capable de rechercher conseil auprès des autres aussi ? De se mettre au service des autres ? De prendre les décisions nécessaires, même si elles ne sont pas toujours faciles à prendre ? On voit dans la parole de Dieu que David, une partie de sa vie, Salomon, une partie de sa vie, et Joseph ont cherché à être des chefs qui honorent Dieu. Il y a aussi eu, bien sûr, des contre-exemples, hein, dans les intrigues, dans l'autoritarisme, des abus de pouvoir, l'utilisation des autres pour ses propres intérêts. On voit cela dans Jézabel, Akab et les fils d'Élie. De quelle manière exerçons-nous l'autorité ? Et pour ceux qui exercent une autorité, et je le dis aussi pour vous les jeunes, parce que dans un club, quand vous avez une responsabilité, vous exercez aussi une autorité. Et je crois que nous tous, il est important qu'on puisse, selon les contextes, donc demander à notre femme, à nos enfants, aux frères et sœurs de l'Église, à nos employés, s'il est facile pour eux de se soumettre à notre autorité. Ayons le courage de leur demander. Ayons le courage d'entendre leur retour. D'entendre qu'il y a peut-être des choses à changer dans notre façon de l'exercer. C'est du courage, mais c'est absolument nécessaire. si on veut pouvoir bien exercer l'autorité. Posons-nous la question de savoir si les personnes qui sont sous notre autorité, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec nous, ont la conviction que les décisions que nous prenons sont mues par la volonté de rechercher l'intérêt de tous. On peut des fois être d'accord de ne pas être d'accord. Parce qu'à un moment, il y a une autorité qui prend une décision. Mais si l'autorité prend une décision qui vise à l'intérêt général, veillons à nous y soumettre, même si elle nous gêne un petit peu, quoi. Donc je terminerai pour dire que la manière dont nous abordons la question de l'autorité dit quelque chose de l'image que nous avons sur nous, sur notre personnalité, sur notre spiritualité, sur notre sécurité. Et parfois, ceux qui exercent de l'autoritarisme, ce sont des gens très fragiles, qui sont très peu sûrs d'eux. Donc derrière un autoritaire, il y a peut-être quelqu'un qui souffre. Si vous exercez de l'autoritarisme, acceptez peut-être de vous faire aider pour comprendre ce qui se joue derrière cela. Exercer une autorité est un privilège, mais avant tout une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. La responsabilité de se mettre au service des autres pour les aider à grandir. À chacun, je souhaite une bonne gestion de l'autorité afin d'honorer Dieu. Amen.